Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, un moteur dans mon vélo, est-ce que c'est encore du vélo ? Paris 2024, les Jeux Olympiques viennent de s'achever sur une pluie de records. Pour la première fois, un homme a couru le 100 mètres en moins de 9 secondes. Une limite qu'on pensait ne jamais voir franchie jusqu'à l'apparition des chaussures à propulsion hydraulique. En cyclisme sur piste, dans le kilomètre contre la montre départ arrêté, autre seuil symbolique pulvérisé, celui des 50 secondes. Là encore, une performance qui doit autant au talent des coureurs qu'à l'ingéniosité des constructeurs. Jamais la roue électromagnétique n'avait aussi bien fonctionné. Alors tout ceci n'est-il que pure fiction ? Eh bien, pas si sûr. Confronté aux limites physiologiques du corps humain, le sport de haut niveau lorgne du côté des innovations technologiques. Si l'athlète n'est plus en mesure de gagner quelques centimètres ou quelques dixièmes de seconde à la seule sueur de son front, il faut améliorer son équipement. Il en va de l'intérêt du spectacle. Une telle approche pose problème en termes d'éthique sportive et d'équité entre compétiteurs. C'est ce qui a conduit d'ailleurs la Fédération internationale de natation à interdire les combinaisons en polyuréthane en 2010. Et c'est encore pire lorsque l'aide technologique est dissimulée dans le but de tricher. Ainsi, cette jeune concurrente belge des derniers championnats du monde espoir de cyclocross, dans son vélo, il y avait un moteur, premier cas de dopage technologique dans ce sport. Alors, un moteur dans mon vélo, est-ce que c'est encore du vélo ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter. Jean-François Toussaint, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, ancien volleyeur, vous avez fait partie de l'équipe de France, vous avez même été champion de France avec l'équipe d'Anières en 1984. Vous dirigez aujourd'hui l'IRMES, l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport. Pour discuter avec vous, Gérald Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Juriste, professeur de droit public à l'Université de Bourgogne à Dijon, vous dirigez le laboratoire de droit du sport et vous êtes membre du tribunal arbitral du sport de Lausanne. Et notre troisième invité, c'est Paul Fournel. Bonsoir.
Bonsoir.
Écrivain, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le vélo, mais pas seulement. Vous avez été Grand Prix de littérature sportive en 1988 pour Les athlètes dans leur tête, qu'on peut trouver aujourd'hui en Point Seuil. Et puis en 2012, également au Seuil, Enque-t-il tout seul. Alors ce soir, nous n'allons pas seulement parler de vélo, mais c'est bien par là qu'il faut commencer, puisque c'est cette affaire de cette jeune cycliste belge, Femke Van Den Driesch, qui nous a donné envie de faire cette émission. Paul Fournel, comment est-ce que vous avez réagi, vous, quand vous avez appris l'existence de cette triche, donc un moteur dans un vélo? Est-ce que vous avez été surpris?
Ah non, j'ai pensé que les contrôleurs de l'UCI avaient essayé de siffler la fin de la récréation pour les gros. Parce qu'on sait très bien que si cette jeune fille de 19 ans qui court dans la catégorie moins de 23 ans au championnat du monde de cyclocross utilise un vélo à moteur, c'est qu'elle n'est pas seule. Il n'y a aucun doute qu'elle ne peut pas être pionnière dans la matière. Donc je pense que c'est pour un petit peu faire violence, quoi.
Il ne s'agit pas seulement de la sanctionner elle, mais de dire aux autres, attention.
Bien sûr, c'est de prévenir les autres que, attention, on est capable de flinguer s'il le faut.
Ouais. Si d'ailleurs l'UCI a été en mesure de trouver ce moteur dans son vélo, Jean-François Toussaint, c'est sans doute parce qu'elle le cherchait spécifiquement et qu'il y avait un certain nombre d'indices qui laissaient entendre que ce trucage, ce dopage technique existait déjà dans les compétitions de haut niveau.
Oui, il avait été démontré techniquement et plusieurs fois d'ailleurs depuis quelques années. On en voit les traces à peu près partout sur Internet. Et d'énormes suspicions avaient suivi quelques départs fabuleux qui auraient pu, à l'époque, rentrer dans les légendes.
On a beaucoup parlé de celle du Suisse Fabian Cancellara dans le mur de Gramont, dans le Tour des Flandres. En 2010, où il dépose le Belston Boonen. C'est vrai, quand on regarde les images, d'un seul coup, on le voit prendre plusieurs mètres d'avance sans se lever de sa selle.
Il y a ces éléments-là, et puis il y a ceux aussi sur la Vuelta, sur lequel on voit des vélos à terre, en cas près des chutes, sur lequel le moment d'inertie est calculé, et pour autant, sur lequel on voit la roue continuer à avancer toute seule. Et donc, sur tous ces éléments, il y avait quand même énormément de choses sur lesquelles, comme le disait Paul, il était bon de revenir à un moment donné à une capacité de diagnostic la plus précise possible.
Le juriste que vous êtes, Gérald Simon, n'a pas été davantage surpris ?
Surpris, je sais pas, parce que il y avait des suspicions,
Mais tant que la personne n'a pas été prise sur le fait, il est difficile de dire que voilà, c'est avéré. Cela étant, je n'aime pas le terme de dopage technologique. Parce que ça entraînera beaucoup de confusion, le dopage, c'est effectivement une amélioration sur le corps de la recherche, de la performance. Là, c'est une pure tricherie, comme on l'a trouvé depuis la nuit des temps où existe le sport. Alors là, c'est très spectaculaire.
Parce que le dopage, ça n'est pas une tricherie.
Alors, et par exemple, il y a un vrai problème sur le plan juridique, pardonnez-moi, je vais faire un peu comme ça.
Ah bah c'est pour ça qu'on vous a invité, hein, donc allez-y.
j'ai vu que, le contrôleur français de la lutte antidopage s'était un peu ému de cette affaire et entendait donc intervenir et demander des informations auprès de l'UCI. Mais la question, c'est de savoir s'ils ont des compétences en la matière pour réglementer, pour sanctionner, etc. Et il faut peut-être faire attention à qui fait quoi. Alors, la tricherie, effectivement, elle est dans le sport, elle est sanctionnée depuis longtemps par les fédérations ou par les organismes disciplinaires, mais sur le plan physiologique, ce qui fait que on s'intéresse plus au dopage au niveau des États, par exemple, c'est, on peut débattre, hein, mais c'est la légitimité, c'est la protection de la santé et les risques pour la santé de l'athlète que le dopage entraîne.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, ça veut dire que pour vous, finalement, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu moins grave, juste d'un mot?
Oui, certainement. Enfin, en tout cas, c'est très différent. À mon avis, c'est très différent. Il faut, pour retrouver, d'ailleurs, les sportifs eux-mêmes le disaient, ça va être assez facile à déceler, semble-t-il. C'est pas comme le dopage. Le dopage, c'est un peu comme la drogue. C'est très compliqué.
Paul Fournel, ça n'est pas l'équivalent de ce qu'a pu être, par exemple, en 98, l'affaire Festina?
Non. Non, ça n'est pas l'équivalent parce que...
Y compris
ça...
en termes d'impact sur l'image du vélo.
C'est créatif autrement. Donc c'est... c'est pas du tout... Bon, il est clairement dit quand même dans le règlement qui fait force de loi que les vélos doivent être propulsés par la seule force musculaire.
Ouais, j'ai le règlement de l'UCI là-dessus. Ouais. L'UCI, alors Union Cycliste Internationale. La propulsion de la bicyclette est assurée uniquement par les jambes, entre parenthèses, chaîne musculaire inférieure, dans un mouvement circulaire à l'aide d'un pédalier, sans assistance électrique ou autre.
Et dans une position particulière, c'est-à-dire que on ne doit pas non plus avoir de vélo couché, de vélo caréné, de vélo dans lequel l'aérodynamisme ait été encore plus optimisé.
Oui, il y a eu pendant longtemps la règle des trois appuis
qui permettait de le faire. Oui.
Qui était qu'on devait avoir sur la bicyclette trois appuis, c'est-à-dire les mains, les fesses et les pieds, et qui maintenant a été transgressé. Ça a été le problème de l'échec de Fignon au Tour de France contre Greg LeMond, qui avait son quatrième appui, puisqu'il avait l'appui des coudes sur son fameux guidon de triathlète. Et donc ça, aujourd'hui, on a tourné cette page-là, on est maintenant sur un profil 4 appuis, en tout cas pour les épreuves contre la montre. Donc je pense que l'invention ne cesse jamais dans un domaine comme celui-là. Je pense que ces moteurs électriques qu'on met dans les vélos existent depuis déjà très longtemps. Ça fait très longtemps que j'en ai entendu parler. Le peloton est un monde très fermé, très particulier, qui a ses secrets, qui a ses usages. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, ceux qui déballent des choses sur... Regardez, c'est les discours des coureurs ces trois derniers jours. Vous avez d'un côté des coureurs qui sont sortis du circuit, hein, les Di Luca, les Cassani, les Wiggins même, qui est presque sorti du circuit, en tout cas du cyclisme sur route, qui balancent, qui disent clairement « oui, ça existe, on le sait depuis très très longtemps ». Et à côté de ça, vous avez ceux qui sont en exercice dans le peloton, disant « c'est effarant, personne n'oserait faire une chose pareille ». Et voilà. Et vous voyez Brian Cookson, le patron de l'UCI, qui dit « on va aller chercher, oh, vous allez voir ça, vous allez voir ce que vous allez voir ». L'année dernière, en 2015, il y a eu 19 vélos contrôlés sur le Tour de France. 19 vélos pour 200 coureurs qui ont chacun 4 vélos. Donc, je veux dire, c'est absolument dérisoire. On voyait les mecs changer de vélo à 20 km de la ligne d'arrivée. On voyait les soigneurs, enfin les mécanos disparaître dans le public à 20 bornes de l'arrivée avec des vélos sur le dos qu'on ne revoyait plus sur la ligne. Enfin, bon, il y a quand même eu un certain nombre d'indices concurrents qui auraient pu mettre des puces aux oreilles. Mais il faut aussi vouloir les avoir,
hein,
les
oreilles.
Juste brièvement, pour revenir sur la distinction entre le dopage et cette forme de tricherie technologique. Vous le voyez, vous le dites vous-même, il n'y a même pas de débat sur le fait avéré que dès qu'on découvre qu'il y a un moteur dans le vélo, c'est une tricherie. Je crois que la pauvre défense de cette cycliste, c'était de dire « c'était pas mon vélo ». Alors que quand il y a dopage d'un sportif, l'analyse et la preuve du dopage, même quand il y a des éléments, des indices qui montrent qu'il y a des produits dopants, est-ce que c'est endogène, pas endogène, quel est le niveau, etc. C'est extrêmement compliqué quand c'est physiologique. Je m'adresse
à, oui, c'est, Jean-François, c'est compliqué. En même temps, il y a quand même des signatures qui sont très claires sur le plan biologique, qui permettent de faire.
Bien sûr, mais il y a des niveaux. Des diagnostics, c'est très quand même très compliqué parfois, la lutte contre le dopage.
La grande difficulté, c'est celle sur laquelle on va avoir des éléments indirects, en particulier sur les signes du sanguin d'un fort taux de globules rouges, par exemple. Et que l'on va chercher par là un signe indirect de l'utilisation de PO. Tous ces effets-là, qui sont les fondements du passeport biologique actuellement, sont très complexes à mener, et sur lesquels on voit bien qu'il peut y avoir des recours au tribunal arbitral extrêmement importants.
Mais il y a quand même une chose qui est très semblable dans le fait d'avoir un moteur électrique caché dans son vélo ou d'avoir pris un produit interdit et dopant, c'est... j'ai quelque chose que tu n'as pas et qui va me permettre de te battre. Voilà. C'est quand même quelque chose qu'on... C'est la même chose de ce point de vue. C'est exactement... L'intention est la même. C'est l'intention, je vais t'avoir. Et j'utiliserai pour ça tous les moyens qui sont en ma possession, en la possession de la science, de la mécanique, de la technique, pour y parvenir.
Alors c'est vrai que quand on parle d'un moteur dans un vélo, on est assez éberlué en se disant, effectivement, si on se donne vraiment les moyens, il n'y a pas de raison qu'on puisse le trouver. Sauf qu'un vélo, finalement, il y a énormément d'endroits sur lesquels on peut dissimuler, en tout cas, une aide à la motricité. Écoutez, juste cet extrait d'un reportage de TF1, c'était il y a quelques jours. Il y a plein de façons donc de cacher un moteur dans un vélo. Et les explications, vous allez voir, elles vont être données par Richard Virenque.
Cette propulsion électrique, comment ça marche ? Richard Virenque nous explique comment ce vélo classique pourrait rouler bien plus vite.
Il y a deux systèmes. Il y a un système avec la batterie qui est dissimulée dans ce tube-là, ou alors une batterie qui est dissimulée dans un bidon. Donc il y a 200 watts qui arrivent dans les pédales. On peut augmenter sa vitesse, de 4-5 km/h, donc c'est énorme. Et en plus, ça peut durer 45 minutes.
L'ancien cycliste commercialise désormais des vélos de course. Plusieurs amateurs lui ont déjà demandé d'installer ce système qui coûte 2000 euros.
Bon, ben alors, Jean-François Toussaint, à partir du moment où c'est une technologie qui peut se retrouver dans le grand public, qu'est-ce qui empêche qu'elle se diffuse dans le sport de haut niveau? Ou alors, est-ce qu'il faut peut-être imaginer un nouveau sport qui serait le vélo électrique?
Ben, la seule question, c'est celle-là. C'est à quel moment on décide de faire une voiture à essence, une voiture électrique? Il y a un circuit maintenant de Formule E qui est prévu justement et qui est un des bancs d'essai de nouveaux moteurs électriques. Si on décide de le faire, à ce moment-là, on se donne un règlement qui autorisera, permettra. Sur la question du dopage, les trois éléments principaux, c'est celle, un, de l'aspect sanitaire, et on voit qu'en aigu, il est très important pour les molécules quand elles déboulent sur le marché et qu'on n'en connaît pas les doses. Ça a été les années 93-96, sur lesquelles il y a eu énormément de décès de jeunes cyclistes belges néerlandais. Et puis après, on est aux microdoses actuellement, il y en a beaucoup moins. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Les effets de long terme ne sont plus ceux que l'on craignait. Mais ce qu'il y a surtout, c'est ce que disait Paul, c'est-à-dire qu'on va avoir sur un aspect de triche un seul élément qui est celui du non-respect de l'adversaire et du non-respect de soi-même. Et c'est celui-là, c'est cet argument éthique qui est le seul sur lequel on voit à chaque fois une transgression dans tous les éléments. Et aucun sport n'est immun sur ce domaine.
Alors je voudrais qu'on reste sur la question des innovations technologiques ce soir et de voir en quoi elles dénaturent ou pas peut-être justement l'éthique du sport. Pour préparer l'émission, Gérald Simon, vous nous avez raconté l'histoire, on reste encore un petit peu dans le cyclisme, du dérailleur et en quoi cette innovation a mis de longues années avant d'être acceptée. Parce que quoi? Ça posait des problèmes justement d'équité sportive?
Je trouve que c'est très intéressant de comparer l'affaire du dérailleur, enfin l'admission si lente du dérailleur de cette technologie, avec le moteur électrique.
Qu'est-ce qui se passe avec le dérailleur?
Alors, le dérailleur a été inventé à peu près, enfin les premières formes de dérailleur ont été inventées dans les années 1910. Et c'est un cycliste de Saint-Étienne qui a expérimenté le dérailleur en 1912 en franchissant pour la première fois les Alpes. C'était la première fois que le Tour de France franchissait les Alpes. Henri Desgranges, le fameux Henri Desgranges, qui organisait le Tour de France, a aussitôt interdit le dérailleur. Pendant ce temps-là, évidemment, pour les vélos de tout le monde, le dérailleur était largement développé, avec les fameuses marques qu'on retrouve encore aujourd'hui, et notamment des Dijonais. Et puis le Tour de France a accepté qu'il y ait des dérailleurs en 1937.
Parce que ça avait le temps d'être généralisé ?
Je pense que les coureurs cyclistes de l'époque avaient de quoi mettre des dérailleurs. Non, parce que dans l'esprit, on parle d'éthique, dans l'idée des organisateurs du Tour de France, le Tour de France devait se à la dure, exactement. C'était les frères Pélissier, etc. Ouais. C'était ça, à la dure. Autrement dit, là, on a un vrai débat sur... on refuse une technologie qui est ouverte à tout le monde... Un peu de la même manière, alors là pour le coup je me contredirais, oui. Que pour les cyclistes ou les sportifs dopés, on interdit de se soigner alors qu'on permet à tout le monde de se soigner. Mais là, on interdit cela au nom d'une certaine idée de pureté du sport.
Paul Fournel,
je termine un mot pour ce qui est actuellement le moteur. Là, c'est une vraie tricherie parce que c'est une différence fondamentale.
Oui, le dérailleur, donc on n'est pas voit. Du tout dans le même. Le dérailleur, il crève les yeux. On l'a ou on l'a pas, mais tout le monde l'a
mais
ou
tout le monde
personne
exactement.
Ne l'a. Tandis que le problème du petit moteur, c'est qu'il est précisément caché dans les tubes. J'ai vu sur des blogs, c'est extraordinaire, ça va à une vitesse folle. J'ai vu sur des blogs de cyclosportifs. Des gars qui disent, oui, d'accord, ils vont contrôler les pros, mais nous, en cyclosportif, on ne sera pas contrôlé, on n'est pas contrôlable, et on va avoir des poireaux qui vont nous taper dans l'école, à l'Ardéchoise, ou, etc., etc. Déjà, on voit très bien, c'est le marché qui est en train de faire exploser cette histoire des moteurs électriques. C'est parce que tout le monde en a envie, en fait. Énormément de gens en ont envie, même parmi les gens qui font du cyclosport. Ils ont envie d'avoir ces trucs-là. Et donc, c'est par là, c'est par le marché que ça va sauter. C'est pas par la législation de l'Union cycliste international, c'est clair.
Est-ce que ça veut dire, Jean-François Toussaint, qu'on peut accepter une innovation technologique dans un sport à partir du moment où elle ne dénature pas ce sport où les compétiteurs sont sur un pied d'égalité, c'est-à-dire ont accès tous à cette technologie, ou bien est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça ?
Je dirais que c'est un peu plus compliqué parce que vous avez deux éléments qui rentrent là-dedans, à la fois celui de l'énergie qu'on y met, et ensuite celui de l'optimisation de l'énergie. Si on est dans l'optimisation de l'énergie, ce que fait le dérailleur, c'est-à-dire que vous avez une puissance musculaire donnée, et puis tout d'un coup, le fait simplement de changer votre pignon de taille vous permet de démultiplier cette énergie, mais elle reste. Et à condition, là encore, et ça a été le débat sur la combinaison de natation, qu'elle puisse être utilisée par tout le monde en toutes circonstances, et c'est bien à ce moment-là un des enjeux qui sont à la fois technologiques et économique. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, cette optimisation, elle vient naturellement sur des règlements acceptés de tous, par tous, et produits par tous avant la compétition, pour autoriser tel ou tel type de... Si c'est par contre une addition d'énergie, ce à quoi revient ce moteur électrique, là on est dans quelque chose qui va aller très au-delà de ce qu'un corps humain peut produire, quelle que soit la technologie qui le prolonge. Parce que le vélo prolonge la jambe, comme le marteau prolonge la main, ou l'ordinateur prolonge le cerveau. C'est une addition technologique d'Homo habilis qui va progressivement démultiplier ses capacités. Tant qu'on est sur cette partie-là et qu'on en accepte ensemble communément le règlement, à ce moment-là, on peut le faire évoluer. Par contre, si c'est ajouter de l'énergie sans en plus en respecter la règle, alors à ce moment-là, on est totalement dans une rupture qui est de pure tricherie, tout aussi simple que celle qu'on décide.
Si on parle des combinaisons, ce sera intéressant, à mon avis.
Et bien alors justement, parlons-en, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, enfin pas à vous trois, mais à celles et ceux qui nous écoutent. 2009, championnat du monde de natation, nous sommes à Rome. Les records tombent les uns après les autres. 43 records du monde battus durant ces championnats. Phelps coach Bob Bowman even says there is no room for error.
La natation, championnat du monde à Rome, avec donc de nouveau la polémique sur les combinaisons high-tech. Polémique après la défaite hier de Michael Phelps sur 200 mètres. L'octuple champion olympique de Pékin battu par l'Allemand Paul Biedermann. Nageur qui lui était équipé d'une combinaison entièrement recouverte de polyuréthane. Pas le cas de Phelps. Et l'Américain, pour une fois, a clairement dit ce qu'il en pense au micro de Franck Ballanger. Écoutez.
You know, Vous savez, la seule chose qui a vraiment changé dans ce sport ces dernières années, c'est la technologie. Et ça a changé ce sport complètement. Maintenant, ce n'est plus de la natation. Les gros titres, c'est toujours qui porte quelle combinaison. Ce n'est pas de la natation et j'attends le jour où nous pourrons à nouveau appeler notre sport la natation.
Bon, et puis il avait quand même fini par remporter une médaille d'or à Michael Phelps. Vous disiez, Gérald Simon, c'est intéressant, la question des combinaisons. Pourtant, tout le monde, a priori, avait les moyens de courir avec les mêmes combinaisons, sauf que peut-être pas, parce que c'était des combinaisons assez chères finalement. Et ça ne mettait pas tous les athlètes sur un même pied d'égalité.
Oui, mais tel qu'on parle ici, on a l'impression qu'il y a eu des combinaisons et puis que la Fédération internationale, la FINA, a interdit les combinaisons parce que ça dénaturait les compétitions de natation.
C'est pas le cas.
C'est la première utilisation d'une combinaison, c'était aux Jeux d'Atlanta en 1996, avec une médaille d'or. Donc, entre 1996 et 2009, il en s'en est fallu du temps avant que la FINA décide d'interdire ces combinaisons. Parce que ça a été une vraie polémique, ça a été un vrai débat. Est-ce que ça dénature ou est-ce que ça ne dénature pas le sport? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? C'est très compliqué. Or là, qu'est-ce qui a le plus choqué? C'est pas tellement qu'il y ait des records du monde battus du fait des combinaisons, c'est qu'une combinaison déterminée par une marque, et là on n'a malheureusement pas beaucoup le temps de parler du droit des marques, parce que derrière tous ces aspects technologiques, c'est évidemment un énorme débat et un énorme combat commercial entre différentes marques qui produisent évidemment de la technologie, en tout cas de l'avancée. Et la marque Speedo avait effectivement mis au point avec la NASA une combinaison qui faisait que les sportifs qui étaient sous contrat avec Speedo avaient effectivement une chance bien plus forte que les autres de gagner. Voilà le débat. Et du coup, on a supprimé tout ça pour retrouver une espèce d'égalité. On est vraiment plein dans le cœur entre l'égalité sportive et la nécessité d'être encore avec le temps, le développement, évidemment, de la technologie et le sport est lié au progrès.
Et au cœur du débat aussi.
Jean-François Toussaint, la FINA, la Fédération Internationale de Natation, n'avait qu'à imposer la même combinaison Speedo développée par la NASA pour l'ensemble des compétiteurs.
C'est le cas, mais c'est une compétition entre marques cette fois-ci. C'est une compétition autour du sport qui devient intéressante à suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est fin des années 99 pour la première génération qui rentre au championnat du monde à ce moment-là. Et à Sydney, on va les voir arriver, en particulier avec Ian Thorpe, qui est un Australien. Et on voit un gain de 2% de l'ensemble des performances de l'époque. Et puis 2008 arrive l'ensemble du travail de Speedo, des ingénieurs américains, qui donc couvrent les États-Unis, l'équipe américaine d'abord, puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc il va falloir la distribuer sur le plan mondial, aux Sud-Africains, aux Australiens, etc. Cette deuxième génération contient 50% de polyuréthane. Et ils se font doubler l'année suivante, en 2009, par un entrepreneur italien qui, lui, va mettre 100% de polyuréthane. Et on va encore gagner sur l'optimisation, parce qu'on perd beaucoup moins d'énergie, et donc du coup, on va encore plus vite, d'où les 43 records de Rome. Et à ce moment-là, on se dit, mais où va-t-on? Il aurait suffi de rester là, tout le monde était encore en plastique en 2016, et on continuerait sur la lancée. Le problème, c'est que cette idée même nécessitait à ce moment-là $400 par course et par athlète, parce que ces combinaisons étaient tellement fragiles qu'elles se déchiraient, et avoir une déchirure de haut en bas de sa combinaison, c'est prendre 40 litres d'eau à l'intérieur. Donc, il faut les traîner un petit peu sur 200 mètres nage libre, c'est un peu difficile.
Donc, toutes les fédérations n'étaient pas sur un pied d'actualité. Paul Fournel, par rapport finalement à ces questions, c'est la natation, mais ça peut être aussi d'autres sujets. Mais enfin, on peut en tout cas considérer que la fédération là, de natation a été assez courageuse de se dire on arrête ça, parce que ça veut dire aussi derrière, on arrête de battre des records à l'appel comme on a pu le faire à Rome, et donc peut-être qu'on va perdre dans le spectaculaire et de l'intérêt que peut avoir le public pour ce sport.
Oui, il y en allait aussi de la survie du sport et de la survie d'eux-mêmes, hein, d'une certaine façon. C'est un petit peu compliqué de... Oui, bien sûr qu'il y a toujours une part de courage dedans. Toute décision nécessite une part de courage. Mais en même temps, la natation a quand même cette chance-là, c'est qu'elle échappe relativement à la course, à l'armement, disons. Donc c'est encore
pourtant,
un sport.
Ils l'ont gardé parce qu'ils ont laissé un Bermuda, c'est-à-dire le quart de la
bien
surface.
Bien sûr qu'ils
couverte,
en ont quand même laissé.
Et
un
ils
petit
ont rajouté quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté les starting blocks justement pour ne pas trop perdre. Donc ils ont gagné 2% et ils ont perdu 1%. Et donc en fait, on voit encore des records être battus en natation, alors que si on avait retiré totalement l'ensemble et qu'on était revenu aux années 90, ben là il y en aurait plus un.
Donc faut quand même laisser un peu d'espoir, quoi.
Oui, puis il faut aussi laisser aux sponsors quelque chose. C'est pour ça qu'on aura laissé du Bermuda à fabriquer. Sinon, les sponsors, si on revenait au bikini, c'était terminé pour les sponsors. Ouais. Donc, il faut quand même leur laisser du... Mais là, dans l'histoire du vélo, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais les constructeurs sont extrêmement gênés en ce moment. Parce que là, tout le monde se demande, est-ce que le Cervélo de Ryder Esdal, est-ce qu'il avait vraiment un moulin, est-ce qu'il est d'origine? Le Specialized de Cancellara, c'est aussi un vélo d'origine? Le moulin est monté d'origine ou bien pas? Ou bien c'est un charlatan qui est arrivé, qui a fait sa propre cuisine à l'intérieur?
Ils ont le droit de travailler sur quoi d'ailleurs aujourd'hui dans le vélo? C'est-à-dire c'est sur le poids du vélo?
Le poids qui est réglementé, mais dans le sens qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les vélos ne soient pas trop légers. La fédération veille à ce que les vélos ne soient pas trop légers pour ne pas exposer les coureurs à des ruptures d'éléments dans les descentes ou des accidents graves. Donc on veille à ce que les vélos fassent plus de 6 kilos quelque chose, de façon à ce qu'il n'y ait pas de prise de risque trop grande au nom de la légèreté.
Ça veut dire, Gérald Simon, que l'innovation technologique, elle doit être régulée dans les sports, et elle l'est, alors on parle du vélo, on parle de la natation, on pourrait aussi parler par exemple de la Formule 1, qui est un sport où il y a énormément de technologies et en même temps énormément de régulation. Par exemple, les moteurs sont bridés, entre guillemets, en tout cas ils pourraient aller beaucoup plus vite qu'ils ne vont aujourd'hui, mais est-ce que ça n'est pas incompatible, en tout cas difficilement compatible avec le pour appeler le droit de la concurrence, c'est-à-dire que les entreprises qui travaillent sur ces innovations technologiques, est-ce qu'elles n'ont pas, elles, besoin justement d'une forme de dérégulation?
Alors, ce qui est absolument incompatible avec le droit de la concurrence, c'est plutôt ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, pour trouver une solution équitable en matière de natation, je reviens un peu en arrière à propos des combinaisons, c'est si la Fédération internationale avait attribué la combinaison à une seule marque ou une seule société. Bon, là, effectivement, les marques concurrentes auraient dit qu'il y avait une exclusivité contraire, absolument contraire au droit de la concurrence, puisque ça aurait été, c'est une affaire commercial.
Bah, c'est ce qui s'est passé en Formule 1, puisque seul Pirelli aujourd'hui fournit des pneumatiques pour les monoplaces.
Absolument. Alors là, Formule 1, c'est un vrai problème. Vous avez souligné que j'étais membre du tribunal arbitral du sport et pratiquement toutes les fédérations sportives internationales font que leur contentieux international relève du tribunal arbitral du sport. Sauf une ou deux, et parmi elles, la Fédération internationale automobile, qui préfère régler ses affaires entre elles. Je dis pas que ce sont des mauvais juristes, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'arrangements avec un certain nombre de règles de droit fondamentales, dont celle-ci. C'est vrai que ça, sur le plan juridique, ça paraît relativement aberrant qu'une seule marque, Pirelli, mais je comprends même pas que les autres marques. Alors peut-être qu'il y a, je sais pas, ils ont Michelin est content. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas vraiment. Ou alors ça les intéresse pas. Mais c'est vrai que c'est quand même complètement en violation flagrante avec le droit de la concurrence cette attribution exclusive. Par ailleurs, alors la régulation de la technologie par le sport. Je pense, bon, c'est un peu une idée que j'ai depuis longtemps. Je pense que fondamentalement, le sport, c'est la contrainte. Le sport n'est que contrainte. Un philosophe que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Michel Bouet, disait à l'époque le sport, c'est cette activité humaine si particulière qu'on cherche à mettre des obstacles tout le temps, parce qu'on fait en sorte que la performance soit difficile. Donc la régulation, c'est ça, c'est aussi faire en sorte que il faut pas trop de technologies faciles, et du coup on régule par en mettant des obstacles, en limitant le coût du dérailleur. C'est très typique de cette idée-là. Mais en même temps, je suis trop long, mais je dis en un mot, le sport, il épouse le progrès. Dans tous les cas, depuis le départ, le sport est synonyme de progrès. Donc on a à la fois une limitation et en même temps une volonté de voir que l'homme, eh bien, il est dans le progrès grâce au sport.
Ah justement, c'est un peu contradictoire. Est-ce que cette problématique du progrès, de l'innovation technologique, elle va se poser de plus en plus parce que le sportif et l'être humain atteint des limites physiologiques qui font que, au bout d'un moment, on plafonne en termes de performance. Et donc, il faut bien aller chercher une amélioration en dehors, justement, du progrès simplement physiologique.
Oui, c'est tout le débat actuellement, à la fois sur l'invention de nouvelles disciplines, l'invention de nouveaux sports, et puis l'évolution des disciplines actuelles. On voit bien que certaines qui sont uniquement ou quasiment uniquement dépendantes de la physiologie arrivent, pour certaines, à ne plus montrer d'évolution depuis 25 ou 30 ans, pour certaines disciplines.
Donc le sprint, par exemple, sur 100 mètres, alors c'est pas 25-30 ans, mais Usain Bolt, ça date déjà de quelques années,
son record. Ça date déjà de 2009, hein, son record. Et puis le 100 mètres féminin, lui, ça date de 1988, donc on va bientôt fêter les 30 ans. Hein. Donc on est sur des plafonds qui apparaissent de façon de plus en plus importante, mais dans le même temps, on voit que certaines disciplines vont extraordinairement décupler leur pouvoir, y compris le pouvoir attractif médiatique, par le biais de l'innovation. Et la plus importante d'entre elles actuellement, c'est la voile. Celle sur laquelle cette Coupe de l'América, qui est la plus ancienne compétition au monde, vient en 2011, dans la dernière coupe qui a été qui s'est passée sur le plan d'eau de San Francisco, vient d'innover de façon ahurissante avec des catamarans de plus de 30 mètres, avec des voiles ahurissantes, avec des bateaux qui volaient sur l'eau à des vitesses ahurissantes, dangereux d'ailleurs, puisqu'il y a eu un mort dans la Coupe Louis Vuitton qui l'a précédé le mois auparavant, mais qui a créé le plus immense spectacle et le plus immense suspense qu'on ait jamais vu de toute quasiment l'histoire du sport. Les Américains qui avaient proposé le règlement accepté par tous a priori sont en train de perdre le match mené 1-8. Et grâce à un certain nombre d'innovations technologiques, de suivi technologique, de progression technologique pendant la course acceptée par l'adversaire, finalement, vont arriver à améliorer leur bateau et vont gagner 9-8. Une compétition de 3 semaines sur laquelle on n'a jamais eu autant d'éléments extraordinaires de développement.
Paul Fournel, juste Paul Fournel qui attend depuis un petit moment et ensuite je vous redonne la parole.
Je voudrais rebondir sur l'idée de danger qui vient d'être évoquée. C'est qu'on y va pour le vélo. Regardez, oui. L'intérêt des premières étapes du Tour de France chaque année maintenant,
c'est les chutes.
Vous balancez 200 types à plus de 50 à l'heure dans les 20 derniers kilomètres, dans les entrées de ville, avec des îlots directionnels, avec des ronds-points. C'est absolument dément. Ce sont des singes. Il faut une agilité, mais inouïe dans un peloton. Faut vraiment.
Je ne pourrais pas le terme,
vivre.
Mais.
Non, mais là, il faut cette souplesse-là. C'est incroyable ce qu'il faut. Et malgré ça, les chutes sont très 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 nombreuses et de plus en plus, et vont l'être de plus en plus. Si on continue à accélérer comme ça sur les bicyclettes et les cyclistes, on va aller au pancras là.
Gérald Simon.
Oui, je disais, pour moi la course de l'América, c'est typiquement la recherche du progrès par le sport. Parce que fondamentalement,
la technologie,
oui, bien sûr, c'est une recherche essentielle sur l'amélioration des voiliers, des bateaux, etc. C'est fondamentalement ça. Alors, à la fois la course, mais la course, elle est complètement une symbiose complète entre justement les hommes qui naviguent et aussi toute la technologie.
Et on voit bien que ça rejaillit sur l'ensemble des compétitions, des disciplines de voile, puisque ces foils qui ont été inventés sont maintenant sur des plus petits bateaux.
Absolument.
Et l'autre contrainte qui s'ajoute maintenant, c'est la contrainte économique, sur laquelle on voit la transformation du Tour de France, par exemple, qui prend ce modèle-là en disant, on va prendre des petits multicoques avec des foils, on va faire des régates plus courtes, plus proches de la côte pour que le public puisse le voir, et en même temps, surtout, ce sera beaucoup moins cher à transporter de port en port. Et donc, on a deux contraintes qui viennent, une contrainte technologique, une contrainte financière et économique qui s'ajoute, dans lequel le sport évolue de façon très importante actuellement, sous d'autres formes de contraintes que celles que vous
avez. Et juste un dernier mot, parce que vous avez eu tort, c'est vrai que les juristes parlent beaucoup aussi, mais sur la course de l'América, il y a toujours... pratiquement, ça fait partie de la course, c'est le débat sur le règlement, sur le sens et la portée du règlement. il y a toujours
avant et après.
Avant et après, effectivement. Ouais. Et ça se souvent, ça, c'est sur le tapis vert que ça se fait. Pourquoi? Parce que tout ça est indissoluble de la course. C'est cet ensemble-là. Et c'est vraiment étonnant et particulier.
Paul Fournel, est-ce qu'on pourrait imaginer que certains sports reviennent à une forme d'état un peu plus naturelle? Et par exemple, si on appliquait ça au vélo, qu'on refasse le Tour de France, pourquoi pas avec les bicyclettes qui étaient celles de Jacques Anquetil et de Raymond Poulidor? Parce que on a évoqué, enfin vous avez évoqué dans cette discussion, je ne sais plus qui exactement, mais la notion d'effort. C'est-à-dire qu'on a aussi envie de voir que pour ceux qui font ces compétitions, ça n'est pas quelque chose de facile. Là, ça redonnerait peut-être aussi une forme d'intérêt à ce sport, non?
L'idée de nature est une idée complexe. C'est une idée difficile à aborder. Pourquoi pas aussi les vélos de 1903? Pourquoi pas les vélos de 1890? Non, je crois que c'est simplement pas souhaitable. Ça n'est pas possible ou pas souhaitable. On peut faire ça comme amateur. On peut avoir du plaisir à rouler avec un beau vélo en acier de 12 kilos. Ça pose aucun problème. Mais on peut pas, au niveau supérieur de la compétition professionnelle, je crois qu'on peut pas là-dessus. Puis il y a derrière tout ça des enjeux économiques qu'on évoquait qui sont absolument impérieux.
Et puis ça ne changerait rien à la compétition elle-même. À partir du moment où l'ensemble de ces éléments réglementaires sont respectés, et d'abord où les cyclistes, mais comme tous les sportifs, se respectent eux-mêmes, à ce moment-là, on va être en situation réelle de compétition avec des matériels assez équivalents. La grande différence, elle se fait, comme on le disait tout à l'heure, soit parce que on change un objet technique, soit parce qu'on change sa biologie soi-même, et on devient ce que Marco Pantani écrit en disant « j'étais une tuyère, j'étais un jet de fusion d'énergie absolue sur lequel cette énergie immédiatement produite et qui se renouvelait immédiatement me donnait l'impression de voler ». Aspect-là, il faut qu'on puisse, à un moment donné, le canaliser pour que cet respect des règlements tienne.
Il ne faudrait pas penser que le fait qu'il y ait plus de technologie rende la recherche de la performance plus facile. Ça augmente certainement le niveau de la performance, mais la difficulté du sportif, l'effort est quand même très très considérable. C'est fondamental ça. Du coup, c'est sur un autre plan, oui, ah ouais. Bien sûr.
J'évoquais l'état naturel du sport. Évidemment que cet état naturel n'a jamais existé, c'est un mythe. Mais est-ce qu'on pourrait prendre alors dans ce cas-là la question dans l'autre sens et réfléchir à ce que pourrait être le sport de demain avec peut-être des sportifs qui seraient de plus en plus appareillés. On n'a pas évoqué ce soir le cas du fameux coureur Oscar Pistorius pour qui lui avait un handicap lourd à la naissance donc avait besoin d'un appareillage, mais est-ce que ça pourrait être quelque chose qui se développe par la suite dans le sport et est-ce que juridiquement c'est une notion à laquelle vous commencez justement à réfléchir Gérald Simon, c'est-à-dire de quelle manière il va falloir réglementer peut-être des sportifs qui seront aidés par des prothèses? Et vous avez une minute pour répondre.
Ben non, j'ai pas jamais réfléchi à ça. Alors vous me prenez un peu au dépourvu. Je ne.
Ah, le soit la perche, nous dit Paul Fournel.
Oui, l'évolution des perches au fil des. Qui sont des prothèses. C'est ce qui permet de sauter très très haut. Oui, alors... Ce sont des prothèses.
Donc, oui, alors, il y a une conception bizarre de la prothèse. Non, je ne le crois pas. Je crois absolument que le sport, il a une essence fondamentale. Et c'est pour ça que c'est important de dire que c'est, un, la recherche de la performance. Deux, c'est pas naturel. C'est absolument pas naturel.
La compétition.
Oui, mais on crée une règle
mais qui le sport qui, réglementé.
On crée une règle qui est forcément artificielle. Et au regard de cette règle-là, on établit une égalité, d'où on verra un vainqueur, un vaincu, une performance, etc. Donc là-dessus, rien n'est changé. Le sport, enfin les fédérations sportives, ne régulent pas une activité. Ils la réglementent. Et ensuite, à partir de là, vous avez plein d'ensembles, effectivement, de technologies, de commerciaux, etc., qui, au regard de cette réglementation, essayent de développer plein d'activités. Mais fondamentalement, c'est ça le sport.
Mais
le noyau, il est là.
Ce qui est certain, c'est que personne n'ira se couper les jambes pour se faire mettre et greffer des prothèses plus rapides, si en admettant qu'elles le soient, pour le principe seul de gagner à un moment donné un 400 ou un 800 mètres.
Espérons.
Ça, c'est juste et heureusement, pour l'instant, espérons, hors de notre portée.
Merci beaucoup Jean-François Toussaint, Gérald Simon et Paul Fournel d'avoir participé à cette discussion. Paul Fournel, vous allez suivre le prochain Tour de France avec
toujours
autant d'appétit qu'auparavant.
Toujours. ils en bavent tellement. Même s'ils ont leur petit moulin, ils en bavent tellement. Ils méritent qu'on les regarde, et de près.
Eh ben merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. C'est discussion que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez également télécharger l'émission. Suivre également nos discussions chaque soir sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Demain, jusqu'où pousser le concept de déradicalisation? Nous poserons la question à Jean-Marc Rouillant et à Gérald Bronner.